Bonsoir à tous, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir pour le dernier volet de notre cycle, Mots d'économie. Je pense que vous avez peut-être assisté à différentes conférences de ce cycle. C'est la cinquième que nous organisons. Je vous rappelle qu'on a abordé pas mal de thèmes, à la fois d'actualité, de théorie de l'économie, sur la croissance, les politiques économiques, les politiques de relance, de rigueur, etc. Je vous rappelle que toutes ces séances ont été enregistrées et sont disponibles sur le site de la BPI dans les archives sonores, et que nous sommes actuellement également diffusés en direct sur Internet. Je salue nos spectateurs sur Internet. Et ce soir, nous allons aborder plus particulièrement le thème du développement durable, un monde à réinventer. Il y avait un point d'interrogation, parce que c'est avant tout une question. Pour aborder un petit peu les différents temps de l'économie, non seulement le court terme de la conjoncture, de l'actualité, mais aussi le moyen et le long terme. Ce soir, nous allons écouter le professeur Jean-Paul Maréchal, qui est maître de conférences en sciences économiques à l'université de Rennes 2. Il est chercheur associé également à l'Institut Choiseul, plus particulièrement pour les questions internationales et d'environnement. Vous allez voir qu'il va beaucoup parler de ces questions de climatologie et d'enjeux globaux. Il a notamment publié des essais sur le climat, plus particulièrement en Chine, et les rapports avec l'environnement en Chine et en comparant avec la situation des États-Unis sur l'histoire économique de ces deux pays. Il a également écrit un essai qui s'appelait Humaniser l'économie chez Desclée de Brouwer au début des années 2000, et qui peuvent aussi, enfin, le concept de l'humanisation peut avoir un rapport avec le thème que nous allons aborder ce soir, et je vais donc lui laisser la parole. Bonne conférence.
Merci, bonsoir et merci d'être venu pour ce cinquième volet de mots d'économie qui, comme on vous l'a dit, donc est consacré à une expression, l'expression de développement durable dont on entend pas mal parler, hein, dans la presse, dans les médias, dans la communication des différents gouvernements, sans qu'on sache toujours exactement ce que ça veut dire. Et c'est un peu la même chose pour les thèmes qui sont associés comme principe de précaution ou des expressions de ce type-là. Alors, ce soir, l'idée, c'est pour cerner au mieux cette notion, c'est de la replacer dans l'histoire de la pensée économique qui a vu finalement les économistes d'abord raisonner en termes de croissance, puis en termes de développement, puis d'éco-développement, pour finir dans les années 80, à la fin des années 80, à forger la notion de développement durable. Donc, l'itinéraire que je vous propose ce soir, c'est de balayer assez rapidement donc 2 siècles d'histoire de la pensée économique, et puis, dans une deuxième partie, d'insister sur les difficultés qu'on peut avoir à définir au plus près ce que signifie cette notion de développement durable, les enjeux dont cette notion est porteuse, et donc, finalement, quel monde pourrait être inventé ou réinventé si cette notion était appliquée. S'agissant donc de la notion de croissance, hein, qui est donc antérieure à toutes les autres, on peut dire c'est que la notion de croissance, la réflexion sur la croissance économique, est consubstantielle à la naissance même de l'analyse économique, de l'économie politique, comme on disait à l'époque, à la fin du XVIIIe siècle. Hein? Alors, on ne va pas ici entrer dans le détail de savoir qui est le fondateur de l'économie politique, mais mettons que ce soit, comme c'est généralement reconnu, un économiste écossais qui s'appelait Adam Smith. Adam Smith donc publie à la fin du XVIIIe siècle, en 1776, un ouvrage qui s'appelle « Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations ». Et finalement, à partir de lui et jusqu'à aujourd'hui, les économistes vont beaucoup réfléchir dans les termes de ce que Marx, au XIXe siècle, appellera la reproduction élargie. Hein? Ce qu'on appelle la reproduction élargie en économie, c'est lorsqu'une économie donnée, bon, mettons l'économie française, produit en une année une quantité de richesse qui est supérieure à la quantité qui serait nécessaire pour recommencer à l'identique l'année suivante. La reproduction élargie se distingue, s'oppose de la reproduction simple. Hein, la reproduction simple, c'est justement quand une économie produit en une année la quantité de richesse qui est strictement nécessaire à sa reconduction à l'identique l'année suivante. Donc, à partir du XVIIIe siècle, l'économie politique, va réfléchir en termes de reproduction élargie. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais finalement, dans les sociétés antiques, il y avait bien une reproduction économique élargie dans la mesure où, si on n'avait pas produit plus de richesses que nécessaires, on n'aurait pas pu construire les pyramides en Égypte, le temple de Jérusalem, etc. Oui, sauf que ce qui va faire la différence entre l'économie capitaliste et ces sociétés antiques, c'est que dans l'économie capitaliste, le surplus de richesses créé ouvre sur un mécanisme qu'on appelle celui de l'accumulation, c'est-à-dire sert en partie du moins à produire des machines, produire des biens qui vont permettre d'augmenter la quantité produite l'année suivante. Et donc ce qui va faire la différence entre une société, mettons, traditionnelle et le capitalisme, c'est que la création de surplus dans une société capitaliste donne lieu à un phénomène d'accumulation productive et donc à une augmentation des capacités de production et partant de la production année après année. Et donc Smith, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit finalement que la mission de l'économie politique, c'est de trouver les voies et moyens qui permettent d'augmenter la richesse produite, de parvenir à ce qu'à l'époque on appelle l'accroissement de l'opulence. Et pour Smith, finalement, cette augmentation de la richesse produite, ce qu'on appellera après la croissance économique, repose sur un certain nombre de facteurs, les institutions. Évidemment, si on n'est pas dans un État où il y a du droit, ça peut pas fonctionner. Le travail, les ressources naturelles et le capital. Et Smith nous dit que lorsque ces quatre facteurs sont réunis, on a bien, année après année, une augmentation de la richesse produite. Mais que cette richesse produite suit pour chaque société une histoire qui est toujours la même, à savoir qu'on commence par une augmentation de la production dans l'agriculture, puis dans les manufactures, l'industrie, comme on dit aujourd'hui, pour finir par le commerce international. Donc, vous voyez, on a à la fois une définition de la croissance économique et, d'une certaine façon, l'histoire naturelle de cette croissance économique, puisqu'on part de l'agriculture pour finir par le développement du commerce international, en passant par le développement de l'industrie. Et cette définition, cette histoire de la croissance économique, eh bien, elle va être partagée par l'immense majorité des économistes jusqu'au milieu du XXe siècle. Toutes tendances politiques confondues, puisque si vous lisez par exemple le Capital de Marx, Marx explique que si il utilise pour illustrer son propos à de nombreuses reprises l'économie britannique, c'est parce que, dit-il, l'économie britannique est dans un état plus avancé que les autres économies européennes et qu'elle est dans une situation dans laquelle, explique-t-il, devront passer toutes les économies qui sont moins avancées dans l'échelle du progrès. Donc voilà un peu l'idée, vous voyez, qui est inaugurée au début à la fin du XVIIIe siècle, et que on va retrouver sous des formes un peu différentes, mais pas si différentes que ça, jusque au milieu du XXe siècle. Alors, évidemment, mais peut-être qu'on y reviendra dans la suite, dans les échanges. Il faut bien évidemment se rendre compte, c'est que on ne peut pas faire honnêtement de critique rétroactive sur cette conception de l'économie dans la mesure où les économistes comme Smith, comme Ricardo, comme Malthus, comme Marx et d'autres économistes encore, finalement essayent de penser l'économie dans une période où l'immense majorité de la population vit au seuil de pauvreté. Encore au début du XXe siècle, par exemple, un ouvrier dans l'est de Londres consacrait à peu près 20% de son salaire à acheter du pain. Donc on conçoit évidemment que dans ce type de situation, tout retournement de conjoncture plongeait dans la misère un nombre extrêmement important de personnes, et que dans les faits, effectivement, l'augmentation de la quantité de richesses produites se traduisait mécaniquement par une amélioration des conditions de vie. Les choses vont commencer à changer à la fin des années 40, où on va progressivement réfléchir sur la différence entre la croissance économique et le développement. Alors, bizarrement, cette distinction va se faire de deux façons qui sont en fait en partie contradictoires, comme vous allez le voir, mais qui vont aboutir à une distinction aujourd'hui assez bien établie entre ces deux notions. À l'extrême fin des années 40, en fait, apparaît la notion de sous-développement. Alors, ça ne veut pas dire que le mot développement n'existait pas avant les années 40, mais on l'utilisait comme synonyme de croissance. Il n'y avait pas de différence conceptuelle entre la croissance et le développement. À la fin des années 40, on se rend compte en fait qu'existe un certain nombre de pays qui n'arrivent pas à procéder à un décollage économique. Et on s'avise à ce moment-là qu'existent de vastes poches de ce qu'on va appeler le sous-développement. Et cette notion va évidemment trouver un écho considérable après 1955, après la tenue de la conférence de Bandung des pays dits non alignés, qui regroupe l'Égypte de Nasser, l'Inde de Mao, la Chine de Mao, pardon, l'Inde de Nehru, etc., etc. Et donc on se rend compte, voyez, au milieu des années 50, qu'un certain nombre de pays ne parviennent pas à procéder à un décollage économique. Et la notion de développement va faire son entrée dans le débat économique et politique sous l'expression de sous-développement. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que on va assister, à partir de la fin des années 50 et du début des années 60, à une critique dans les pays du Nord de la notion de croissance économique elle-même. Alors pourquoi est-ce qu'on va critiquer la croissance économique ? Parce qu'on va reprocher en fait à cette croissance économique. Je rappelle qu'à l'époque, la France faisait à peu près 5,2% de croissance économique par an. Eh bien, on va reprocher à cette croissance économique de conduire à une standardisation, à une uniformisation des modes de production, des modes de consommation, des modes de vie. Et cette standardisation des modes de production va notamment se traduire par la division et par l'émiettement du travail. Et dans ces conditions-là, on assiste en fait à une critique de l'idée même du caractère désirable de la croissance économique. On se dit qu'après tout, finalement, augmenter la richesse produite de 5% par an, c'est peut-être pas si extraordinaire que ça, si on est obligé pour ce faire de devoir travailler de manière abrutissante et de tous consommer les mêmes produits. Donc vous avez finalement, vous voyez, deux remises en cause qui sont pas du tout sur le même plan, et d'ailleurs en partie pas vraiment compatibles entre elles, mais qui vont amener au début des années 60 à faire une distinction entre la croissance économique d'une part et le développement économique d'autre part. Et la première fois où est faite cette distinction, qui n'est pas, voyez, simplement une distinction lexicale, mais une distinction conceptuelle, c'est en 1960, par un économiste français qui s'appelle François Pérou. Et François Pérou, dans un ouvrage assez connu qui s'intitule « L'économie du XXe siècle », va opérer une distinction nette entre la croissance économique et le développement. Alors, qu'est-ce qu'il explique dans l'économie du XXe siècle ? Eh bien, il explique que la croissance économique, c'est l'augmentation en longue période d'un indicateur de quantité. En l'occurrence, l'indicateur de quantité, c'est le produit intérieur brut par tête. Produit intérieur brut, c'est la quantité de richesse qui est produite en une année dans une économie. Donc, pour François Pérou, on a croissance économique lorsque, on a augmentation en longue période de cet indicateur de quantité. Ça, c'est de la croissance. Et le développement, explique Pérou, c'est l'ensemble des conditions institutionnelles, psychologiques, dit-il, c'est-à-dire aujourd'hui on appellerait ça les représentations, qui rendent la croissance économique possible. Alors vous voyez, ce qui est intéressant chez Pérouse, c'est qu'il fait la distinction entre la croissance, phénomène quantitatif, du développement, phénomène qualitatif, mais on peut dire c'est qu'en fait, Pérouse fait du développement un phénomène qui est préalable à celui de croissance. Oui, c'est-à-dire qu'il dit, finalement, vous ne pouvez pas avoir de la croissance économique en longue période si vous restez à structure inchangée, si vous conservez les mêmes institutions, Et pour lui, le développement économique, c'est ce qui permet l'augmentation de la quantité de richesses produites. Développement économique, c'est quoi ? C'est l'augmentation du taux de scolarisation, c'est l'accès aux soins, l'accès au logement, etc. Toutes conditions qui permettent à l'économie de mieux fonctionner. Mais voyez, pour que vous ayez cette augmentation du PIB sur plusieurs années, vous ne pouvez pas rester à structure inchangée. Et c'est, voyez, en 1960 que on va nettement faire une différence entre ce qu'est la croissance, phénomène quantitatif, du développement, phénomène qualitatif. Là-dessus, les recherches, les travaux des économistes vont se multiplier. Et ce qu'on peut dire, c'est que progressivement, on va désigner par croissance économique le niveau de vie et par développement économique les conditions de vie. Avec donc un ensemble de recherches sur les types de relations qui unissent la croissance au développement. Parce que Pérouse, c'était le développement est un facteur de croissance, mais on va aussi se demander, et ça va être quand même le gros des recherches dans les années 70, si la croissance économique se traduit forcément par du développement. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un phénomène d'augmentation du niveau de vie moyen, mais que ce phénomène d'augmentation du niveau de vie moyen ne se traduit pas, ne conduit pas à une amélioration des conditions de vie de tous. Et je veux dire, on a une foultitude d'exemples qui sont scientifiquement documentés. Si vous prenez par exemple l'histoire américaine depuis 1940, de 1940 à 1978, mettons, vous avez de la croissance économique et du développement puisque vous avez réduction des inégalités. Et à partir de 1978, vous avez toujours de la croissance économique, mais vous avez, sinon pas de développement, du moins moins de développement, à tout le moins, puisque vous avez augmentation des inégalités. Oui, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que ce pauvre président Obama est obligé de mettre en place un mécanisme de sécurité sociale quand il essaye ? Bon, c'est bizarre. Pourquoi ça leur prend d'un seul coup les autorités américaines de mettre en place un système de sécurité sociale ? C'est parce qu'évidemment, dans les années 60, il y en avait en tout cas moins besoin, dans la mesure où les gens étaient assurés en majorité par leurs employeurs. Et comme ce phénomène qu'un contrat de travail s'accompagnait d'une assurance médicale va progressivement cesser à partir des années 80, mais c'est tout à fait logique que dans les années 2000, les États-Unis se retrouvent avec 35 millions de personnes qui sont dépourvues d'assurance maladie. Donc, vous voyez, ça ne fait pas véritablement l'objet de débat. C'est-à-dire que ça fait l'objet de débat uniquement pour les gens de mauvaise foi, dans la mesure où on voit bien, vous voyez, que là, on a un pays qui a un taux de croissance à peu près régulier depuis 1940, autour, disons, mettons, de 3%, avec des hauts et des bas, mais enfin, en moyenne, ça fait 3%. Sauf que pendant 40 ans, vous avez réduction des inégalités, et puis dans les 40 années suivantes, vous avez augmentation des inégalités. Donc, dans les années 70, on va beaucoup réfléchir, vous voyez, sur ces interactions, c'est-à-dire quel développement pour quelle croissance, mais aussi quelle croissance pour quel développement. Et puis, évidemment, un débat qui va apparaître au début des années 70, qui est le thème de la croissance zéro. En 1972, vous avez la première conférence mondiale sur l'environnement, la conférence de Stockholm. Puisque la conférence mondiale sur l'environnement, c'est toutes les années en deux, 72, 82 à Nairobi, 92 à Rio, etc. Bon. Et en 1972, en fait, vont s'opposer finalement deux grandes tendances extrêmes, à la conférence de Stockholm. Donc, une première tendance, disons assez classique, qui consiste à dire, bien sûr, il y a des problèmes d'environnement, mais en même temps, la croissance économique va permettre de les résorber spontanément. D'accord ? Et puis, à l'autre extrême, vous avez la thèse du Club de Rome qui explique qu'il faut faire de la croissance zéro, hein, parce que si on continue à faire de la croissance économique, eh bien, on va manquer d'un certain nombre de ressources et à terme, l'économie va s'effondrer. Bon, alors peut-être que si ça vous intéresse, on pourra échanger après. Là, je ne veux pas trop insister sur ce débat-là et sur la croissance zéro, mais disons que en 1972, dans cette conférence de Stockholm, on a en fait ces deux positions qui constituent en fait les deux positions extrêmes. Et puis, vous avez une troisième position qui est celle de l'éco-développement, qui va finir par réunir lors de cette conférence un grand nombre de suffrages. Qu'est-ce que disent les économistes qui développent en fait cette idée ? C'est que la solution qui aux problèmes posés par le développement de la sphère économique ne réside ni dans la poursuite effrénée d'une croissance la plus élevée possible, ni dans l'arrêt de cette croissance, mais dans une réorientation de celle-ci. Et donc, les économistes qui travaillent sur le thème de l'éco-développement font valoir que quand on fait de la croissance économique, c'est s'interroger sur au moins deux choses. La première chose, c'est l'utilité sociale de ce qu'on produit. C'est-à-dire finalement, est-ce qu'on ne consacre pas trop d'énergie, trop de ressources pour fabriquer des produits qui n'ont pas véritablement d'utilité sociale ? Et puis, la deuxième chose qu'on doit prendre en considération, c'est la recherche de l'utilisation la plus efficace possible des ressources dont on dispose. Et on voit bien que d'un certain point de vue, ça anticipe des thèmes actuels qui sont très très présents dans l'industrie, où on explique aujourd'hui, notamment dans l'industrie de pointe, que le 19e et le 20e siècle ont surtout été axés sur l'augmentation de la productivité du travail, mais que désormais, il faut travailler de plus en plus sur la productivité des ressources, c'est-à-dire faire en sorte qu'avec une ressource donnée, on ait le résultat le plus élevé possible. Alors que, évidemment, dans les années 60 et 70, le faible coût des ressources faisait qu'on ne se préoccupait pas tellement de les utiliser au mieux. Donc, vous voyez, la conférence de Stockholm de 1972 est une date importante parce qu'on voit bien comment se structure le champ du débat. Sauf que 1972, ce n'est pas forcément une très très bonne année pour lancer ce type de projet, parce que 1973, c'est la guerre du Kippour, c'est le quadruplement du prix du pétrole, et dans les années qui vont suivre, eh bien finalement, ce que vont faire les économies occidentales, c'est d'essayer de retrouver les conditions qui avaient existé entre 1945 et 1973, ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. Et donc, les questions d'environnement, dans un premier temps, vont être reléguées, puisque l'idée, vous voyez, c'est de retrouver à peu près 5% de taux de croissance par an et d'endiguer la montée qui semble inexorable du chômage. Reste que pendant cette période, les problèmes d'environnement vont avoir tendance à se multiplier. Un certain nombre d'accidents technologiques majeurs vont intervenir. Un certain nombre de pollutions, alors ça peut être des pollutions diffuses, la maladie de Minamata, par exemple, au Japon, à la fin des années 60, où des rejets de mercure dans l'eau de mer contaminent les poissons qui contaminent les gens qui mangent les poissons en question. Un certain nombre d'accidents technologiques dans des usines, dans des sites de production, font que la prise de conscience des dommages à l'environnement progresse quand même. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, on se rend compte que de négliger les problèmes d'environnement n'empêche pas la montée du chômage. Et on finit par se dire qu'après tout, mettre en œuvre des politiques de protection de l'environnement pourrait créer des emplois. Donc, l'ensemble de ces questions-là fait que, au début des années 80, 1983 pour être précis, on crée la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, hein, et dans le cadre donc de l'Organisation des Nations Unies, et que donc on va confier la présidence de cette commission à une dame qui a été Premier ministre de Norvège, qui s'appelle Madame Brundtland, et on va lui fixer comme tâche de rédiger, dans un horizon de quelques années, un rapport sur l'avenir de la planète, sur les problèmes globaux et les moyens d'en sortir. Alors, naturellement, on aurait du mal à imaginer une lettre de mission plus vaste que de faire un rapport sur l'avenir de la planète et les moyens d'en sortir, mais, sans jeu de mots, elle s'en est plutôt bien sortie, puisque en 1987, après donc s'être entouré d'une vingtaine de spécialistes, de pays du Nord, du Sud, de différentes disciplines, etc., sort un rapport qui s'intitule « Notre avenir à tous ». Et ce rapport va passer à la postérité sous le nom de rapport Brundtland. Et c'est dans ce rapport que est définie pour la première fois la notion qui nous réunit ce soir, celle donc de développement durable. Cette notion de développement durable, sur laquelle je vais insister maintenant, donc, est définie en 1987. Ça ne veut pas dire que l'expression ne circulait pas, par exemple dans des rapports de l'Union internationale pour la conservation de la nature, mais elle ne faisait pas l'objet d'une définition précise. Donc, 1987, le rapport Brundtland définit la notion de développement durable, et évidemment, cette notion va connaître une notoriété planétaire quelques années plus tard, 5 ans plus tard, en 1992, lors du célèbre sommet de Rio. Alors, qu'est-ce que nous dit le rapport Brundtland ? Il nous dit que un développement est dit durable lorsqu'il permet, premièrement, de satisfaire les besoins de la génération présente, mais deuxièmement, sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Donc ça, c'est une définition qui a donné lieu à pas mal de débats. Dans les années qui ont suivi la publication du rapport, la Banque mondiale avait listé 94 définitions du développement durable. Sauf qu'aujourd'hui, on est vraiment passé à autre chose, et c'est cette définition qui, aujourd'hui, fait référence. Donc il y a une seule définition du développement durable, mais on va voir qu'il y a beaucoup de questions derrière cette définition. Mais la définition, disons, canonique de référence, c'est celle du rapport Brundtland, satisfaire les besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Alors, qu'est-ce que cette définition pose comme question ? Qu'est-ce qu'elle pose comme problème et quelle interprétation on peut en donner. La première chose qu'on peut dire à propos de cette définition, c'est que le développement durable, contrairement à ce qui est parfois indiqué ici ou là, ne concerne pas que le futur. Puisque satisfaire les besoins du présent, c'est quand même une tâche importante. Quand on sait qu'aujourd'hui, à peu près 8 ou 900 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, quand on sait que plus d'un milliard de terriens vivent avec moins d'un dollar en pouvoir d'achat par jour. Bon. Donc, le développement durable, vous voyez, c'est pas une notion qui serait exclusivement tournée vers le futur. La première mission du développement durable, c'est de satisfaire les besoins du présent. Et on voit que ces besoins de la génération présente, mais ce n'est pas une génération au sens des démographes, puisque évidemment à un moment donné coexistent plusieurs générations, mais c'est au sens les êtres humains qui vivent aujourd'hui sur Terre. Donc première remarque, c'est celle-ci. Deuxième remarque, c'est que la notion de développement durable est une notion, et c'est évidemment ça sa nouveauté, qui se préoccupe des générations futures. C'est, jusque-là, la notion de croissance économique ne le faisait pas. Et donc, pour la première fois, on dit finalement il faut satisfaire les besoins du présent, mais faire en sorte que ça n'empêche pas les générations futures de pouvoir satisfaire leurs propres besoins. Et c'est là, donc, deuxième remarque, que tombe une critique qui est souvent adressée par les opposants à la notion de développement durable, ceux qui sont pour la croissance la plus élevée possible, c'est de dire, mais finalement, vous savez pas quels seront les désirs, les besoins, les souhaits des générations futures, et après tout, vous êtes qui pour en décider ? Mais précisément, justement, on ne décide pas pour eux. C'est-à-dire que l'idée du développement durable, c'est de faire en sorte que les générations qui viendront après nous aient un espace de choix qui soit aussi large que celui dont on a bénéficié. Donc précisément, il ne s'agit pas de dire aux générations futures ce qu'elles devront préférer, mais c'est de faire en sorte de leur léguer un monde où leur espace de liberté sera le plus vaste possible. Et en participant il y a quelques années à plusieurs débats, il y avait un argument qui circulait, qui consistait à dire, mais finalement, qu'est-ce qui vous prouve que dans un siècle, les gens, ça les dérangera de sortir avec un masque pour se prémunir de la pollution ? Mais moi, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, oui, la réponse, moi, c'est je sais pas. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, après tout, s'il y a des gens qui aiment sortir avec un masque, personne ne les empêche de le faire, même si l'air est pur. En revanche, si l'air est pollué, les gens qui n'aiment pas sortir avec un masque se retrouveront obligés de le faire. Et donc, leur espace de liberté sera plus faible. Donc, vous voyez, la préoccupation pour les générations futures, c'est pas imposer aux générations futures des choix, c'est en fait l'exact contraire. Et si on voulait prendre un exemple concret là-dessus, on prendrait volontiers, par exemple, un sujet qui est tous les ans d'actualité, qui est l'arrêt de la pêche au thon rouge. Puisque vous n'ignorez pas que les Japonais aiment beaucoup manger du thon rouge et expliquent que la consommation de thon rouge, c'est un élément de leur patrimoine culturel. Mettons que ce soit vrai, les Japonais étant assez spécialisés de ça, puisqu'ils ont réussi à faire classer comme patrimoine immatériel de l'humanité la cérémonie du thé. Donc, pour tout, pourquoi pas, hein, à la foulée du quoi l'Argentine a fait classer le tango et le président Sarkozy la gastronomie française. Donc, mettons qu'on prenne au sérieux cet argument que, après tout, manger des sushis au thon rouge, c'est un élément fondamental de la culture japonaise. Point numéro 1. Bon. Mais point numéro 2, si on continue de pêcher des thons rouges au rythme où on les pêche aujourd'hui, dans quelques années, il n'y en a plus. Donc ça veut dire qu'en fait, si les Japonais étaient conséquents avec leur propre raisonnement, ils arriveraient à la conséquence qu'il faut réduire la quantité de thon rouge pêché, parce que s'ils continuent comme ça, en fait, ils priveront leurs descendants de l'accès à un élément fondamental, soi-disant, de leur culture. Donc on voit bien, voyez, que la modération ou la réorientation d'un certain nombre de trajectoires, c'est pas du tout prendre position pour les générations futures, c'est au contraire, hein, laisser faire en sorte que les générations futures ne se retrouvent pas confrontées à des niveaux de rareté qui les empêcheraient de pouvoir mener les choix qui leur paraissent adaptés à leur échelle de préférence. Donc ça, c'est deux remarques qu'il faut avoir en tête quand on réfléchit sur cette notion de développement durable. Alors, naturellement, cette notion de développement durable implique que soient traités un certain nombre de problèmes sociaux ou sociétaux et un certain nombre de problèmes environnementaux. Alors, les problèmes environnementaux, on pourra y revenir, donc ça va de la pollution, de l'air, de l'eau, des sols, jusque à l'épuisement d'un certain nombre de ressources naturelles ou la perte de biodiversité. Les problèmes sociétaux, ça commence avec l'accès de chacun à la nourriture, à l'eau. On a vu tout à l'heure que c'est pas le cas pour à peu près un septième de la population mondiale. Et puis, ça va jusque à l'accès à la liberté d'expression, en passant par l'accès aux soins, l'éducation, etc. etc. Bon. Tout problème, évidemment, qui sont liés, parce que on voit bien que les pays où règne la démocratie sont des pays où il n'y a pas de famine. Bon, pour des raisons assez simples, c'est qu'en fait, il est assez difficile de revenir devant les électeurs si, sous votre mandat, plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers de personnes sont mortes de faim. Donc, voyez, le développement durable, c'est une notion qui permet en fait de connecter des problèmes qui, jusque-là, étaient traités séparément. Problèmes d'environnement, problèmes sociaux, etc., etc. Bon, la notion de développement durable, vous voyez, permet de montrer en fait les interconnexions entre ces problèmes, et en fait ces interconnexions vont en réalité assez loin. Dans la mesure où on peut dire, voilà, il y a des problèmes sociaux d'un côté, il y a des problèmes environnementaux de l'autre, et puis vous avez des problèmes qui sont un peu mixtes, qui sont à la fois sociaux et environnementaux, type la pollution de l'air, par exemple. Vous voyez, la pollution de l'air, c'est un problème d'environnement, puisqu'on dégrade la qualité de l'air, mais c'est aussi un problème social ou sociétal, lorsque, par exemple, à Pékin, au début de l'année 2013, on a des taux de pollution qui sont de 900 particules par million, des ppm, comme on dit, de particules fines. Donc on est à 900, alors qu'à Paris, on considère qu'on a atteint le seuil d'alerte à 50. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, vous avez à la fois un problème d'environnement et un problème qui est d'ordre sociétal. Mais la liaison est en fait plus profonde que ça. Dans la mesure où les problèmes sociaux ou sociétaux, les inégalités sociales et les problèmes d'environnement se renforcent mutuellement. Je m'explique. Certains ont coutume de dire, vous l'avez sans doute déjà entendu, que finalement, les problèmes d'environnement, il faut les régler une fois qu'on a réglé les problèmes sociaux. Que c'est une préoccupation plutôt de riches, hein, et que seuls les riches s'intéressent à leur cadre de vie, et qu'une fois qu'on aura réglé tous les problèmes sociaux, on pourra un petit peu essayer de faire en sorte de vivre dans des environnements agréables. Cet argument est complètement faux, dans la mesure où, de toute façon, les riches vivent dans des environnements agréables. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui souffrent, en premier lieu, de la pollution. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, les inégalités face à l'environnement renforcent les inégalités sociales. Et on peut l'observer aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Au niveau national, pourquoi ? Parce que qui est-ce qui, à Paris, est le plus soumis à la pollution ? Ce sont évidemment les SDF. Ce ne sont pas les gens qui habitent sur la butte Montmartre, qui habitent à côté du Champ de Mars, etc. Bon. Donc, on a bien là, vous voyez, une inégalité face à l'environnement qui renforce les inégalités de richesse. Lorsque vous avez un accident technologique majeur comme AZF à Toulouse il y a quelques années, ben les gens qui sont victimes à l'extérieur du site de production, j'entends, qui sont victimes de l'accident, ce sont des gens qui habitent dans une zone industrielle. Donc on peut penser que dans le cas d'espèce, plutôt que d'habiter dans la zone industrielle de Toulouse, ils auraient largement préféré habiter place du Capitole. Bon. Donc on voit bien, vous voyez, qu'au niveau national, les inégalités face à l'environnement renforcent les inégalités de richesse. Et ce qui est vrai au niveau national est évidemment vérifié au niveau international. De quelle façon ? De manière très simple, c'est que lorsque on ne veut pas payer le retraitement de déchets dans les pays du Nord parce que ça coûte cher, on les envoie dans les pays du Sud. Et par exemple, en 2007, vous aviez un cargo plein de déchets qui est arrivé à Abidjan et qui a tellement contaminé le port d'Abidjan que les gens étaient pratiquement obligés de quitter la ville et que les bateaux qui devaient décharger leurs conteneurs à Abidjan, en fait, se reroutaient sur le Sénégal. Bon. Et il y avait une note, d'ailleurs, qui avait circulé quelques années avant, en 2003 ou 2004, écrite par un de nos collègues de Harvard qui s'appelle Larry Summers, qui expliquait qu'en fait, il fallait mettre les industries polluantes dans les pays du Sud. Pourquoi ? Parce que la responsabilité civile était quasiment inexistante et que donc les entreprises étaient peu susceptibles en fait de devoir payer des dommages et intérêts en cas de problème. Ce qui d'ailleurs finalement est assez vrai et même tout à fait vrai. Dans la mesure où l'accident de Bhopal en Inde en 1984, qui a tué entre 6 000 et 10 000 personnes, a donné lieu à un règlement entre la société Union Carbide et l'État indien à 500 millions de dollars, et que 4 ans plus tard, l'accident d'un pétrolier en Alaska qui n'a tué personne a coûté à la société Exxon plus de 3 milliards. Donc on voit bien que Summers a raison hein, de dire que effectivement, vaut mieux aller polluer chez les pauvres que chez les riches parce que ça coûte moins cher. Et donc ces phénomènes-là, et ce qui n'a pas empêché d'ailleurs Larry Summers d'être nommé parmi les conseillers économiques du président Obama. Le président Obama s'étant bien gardé de prendre parmi ses conseillers économiques des gens qui n'étaient pas liés au monde de la finance. Et donc, on voit bien, vous voyez, que vous avez une relation de causalité entre les inégalités environnementales et les inégalités de richesse, au sens où les inégalités face à l'environnement renforcent donc les inégalités de richesse, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Et quand je vous parlais du niveau national, c'est vrai aussi bien dans les pays riches que dans les pays pauvres, hein, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas pollué dans les pays pauvres. Dans les pays pauvres, quand vous appartenez à la haute bourgeoisie, vous vivez évidemment dans des endroits où vous n'êtes pas victime de la pollution. Et ces inégalités face à l'environnement, vous voyez, renforcent les inégalités de richesse, mais ce renforcement peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que si on prend le cas de l'eau, par exemple, 900 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable, mais ça veut dire quoi ? Concrètement, si vous prenez certains pays du Sud, ça veut dire que lorsque vous habitez dans la partie de la ville où vous avez un réseau de distribution d'eau, finalement, c'est généralement les quartiers les plus chers. Et vous payez l'eau moins cher que ceux qui habitent dans les quartiers où il n'y a pas de réseau de distribution d'eau et qui sont obligés d'acheter l'eau à des vendeurs d'eau. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le litre d'eau à Dakar, par exemple, est plus élevé lorsque vous habitez autour du port autonome de Dakar, qui est un quartier relativement pauvre, que quand vous habitez sur Dakar Plateau, où vous avez la haute bourgeoisie dakaroise. Et si vous allez encore plus loin dans l'analyse, si vous allez dans des petits villages, etc., où il faut faire de la marche à pied pour aller chercher de l'eau et la ramener à domicile, bien, en fait, ce que vous apercevez, c'est que statistiquement, ce sont les filles qui s'y collent. Et que pendant que les petites filles vont chercher l'eau, elles ne sont pas à l'école. Et que donc là, vous allez reproduire des inégalités entre les hommes et les femmes pour les 40 prochaines années. Donc vous voyez, la question de l'environnement n'est absolument pas étrangère aux questions des inégalités de richesse, mais bien au contraire, les renforce. Mais le renforcement se fait aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que les inégalités de richesse rendent plus problématique la résolution des problèmes d'environnement. Si vous prenez par exemple la question de la pollution de l'air en ville, évidemment, on connaît les solutions. Les solutions, c'est qu'il y ait plus de voitures électriques, c'est qu'il y ait des transports en commun. Seulement, évidemment, les possibilités d'acheter des voitures électriques dépendent tout de même un peu du budget des ménages. Et ce qui rend, vous voyez, possible, l'éventualité qu'à Paris on interdise la circulation des vieilles voitures, c'est évidemment l'enrichissement de la population parisienne. Et le fait que, évidemment, ça va pas avoir d'impact sur les ouvriers, puisque de toute façon les ouvriers habitent pas Paris. Et que ceux que ça pourrait gêner parce qu'ils traversent Paris tous les jours, eux, de toute façon, votent pas à Paris. Donc, on voit bien, si vous voulez, que ce type de disposition est évidemment rendu possible par l'embourgeoisement de Paris depuis une quarantaine d'années. Et que donc, les communes n'ont pas les mêmes possibilités d'investissement selon que vous êtes à Paris, à Neuilly, ou que vous êtes au fin fond de la Seine-Saint-Denis. Si bien voyez que même à ce niveau-là, les inégalités de richesse rendent problématique la résolution des problèmes d'environnement. Et que selon qu'une commune va être riche ou pauvre, naturellement, elle va pouvoir mettre en œuvre ou non des mesures qui vont être favorables, dans le cas que je citais, à la qualité de l'air. Ce qui est vrai au niveau national l'est également au niveau international. Pourquoi ? Parce que, quoi qu'on en dise, lorsqu'on est confronté à un problème d'environnement, le résoudre coûte de l'argent. Et le fait de reconnaître qu'il y a bien un problème d'environnement va être d'autant plus facile qu'on a affaire à des pays qui sont au même niveau de développement. Et savoir qui paye combien va être d'autant plus facile que, là aussi, on a des pays qui ont à peu près le même niveau de richesse par tête. Le cas qu'on peut citer, qui vient spontanément à l'esprit, c'est la lutte contre la pollution du Rhin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez deux pays, la France et l'Allemagne, donc globalement, c'est les mêmes types d'économies, c'est le même niveau de développement, etc. Et donc, la France et l'Allemagne ont reconnu qu'il y avait un problème de pollution du Rhin et ont mis en œuvre des mesures pour essayer de le régler. En revanche, lorsque vous avez des pollutions internationales qui ont un impact sur des pays riches et des pays pauvres, on constate c'est que assez souvent les pays pauvres renâclent à considérer qu'il y a bien le problème, ce qui a été le cas par exemple du changement climatique pendant de nombreuses années. Et puis une fois que tout le monde reconnaît qu'il y a bien un problème, alors là commence un certain nombre de difficultés sur le point de savoir qui paye combien. Qui est quand même la question ultime en économie, hein, qui paye, combien et pourquoi. Et on a là un parfait exemple avec la question du réchauffement climatique, où on voit bien que vous avez des groupes de pays aux intérêts divergents, et le tout étant compliqué, mais ça on y reviendra peut-être, par le fait que l'un des premiers pollueurs par tête, les États-Unis, refusent tout engagement contraignant. Et évidemment, donnant toute légitimité à tous les autres pays, en particulier les pays émergents, de refuser, eux, à leur tour, de réduire leurs émissions de CO2. Donc, ce sur quoi, vous voyez, je voulais un peu insister quand on réfléchit sur la notion de développement durable, c'est, vous voyez, sur l'idée d'interconnexion que cette notion met en évidence. Hein ? Et donc, le monde a réinventé, alors je ne me permettrai pas de savoir dans quel sens il faut réinventer le monde, mais vous voyez, l'idée, c'est que la notion de développement durable, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas l'équivalent ni de la théorie libérale, ni de la théorie keynésienne, ni du marxisme, etc. Hein ? Donc, c'est plus une notion qu'un concept, pour finir. Mais l'utilité, en fait, de cette notion, c'est sa dimension, comme disent les philosophes, performative, c'est-à-dire les comportements ou les réflexions ou les débats que la diffusion de cette notion engendre. Et en particulier, la prise de conscience, aussi bien par les citoyens que par les politiques, de l'interdépendance entre les problèmes sociétaux et les problèmes environnementaux. Et donc, le fait que les deux doivent être résolus simultanément. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tenter de résoudre un problème au dépend d'un autre. Ce qui fait évidemment que ça rend la tâche qui est, la tâche qui est devant nous extrêmement difficile. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Et j'attends vos questions, vos remarques, et je vous remercie de votre attention.
On peut passer à quelques questions, monsieur.
Bonjour monsieur, Hervé Naillon, Fondation 2019. Qu'en est-il de l'intégration des externalités négatives, c'est-à-dire ce qui n'a jamais été pris en compte dans l'économie, par exemple la pollution par les particules diesel, qui sont reportées sur la société, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en fait, nous commençons à les payer. C'est-à-dire que longtemps, on l'a repoussé. Est-ce qu'aujourd'hui, ces externalités commencent à être intégrées dans les modèles économiques ?
Alors, on les a... Après, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a certaines externalités négatives qui ont été intégrées dans les pratiques. Je pense, par exemple, en France, dès les années 60, 1964 en l'occurrence, on met en place une loi sur l'eau qui va créer les agences de bassin qui vont lutter de manière extrêmement efficace contre la pollution de l'eau. Bon. Donc, on ne peut pas dire qu'on s'est aperçu de l'existence d'externalités négatives simplement au cours des dernières années. C'est un mouvement, enfin, sur le plan théorique, qui remonte à l'extrême fin du 19e siècle pour les externalités positives. Et puis ensuite, dans les années 20, on va plutôt mettre l'accent sur les externalités négatives. Et après la Deuxième Guerre mondiale, dans un certain nombre de pays, on va les prendre en compte. La difficulté, c'est que ces externalités négatives n'arrêtent pas de changer. C'est-à-dire que dans les années 60, on a un type de pollution, mais lorsque vous luttez contre un type de pollution, ben, vous apercevez qu'il masquait des pollutions plus fines dont vous ne soupçonniez pas l'existence, et puis qu'il y a une histoire de la pollution, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles pollutions qui apparaissent. Et donc, dans les pays anciennement industrialisés, ça fait pas mal de temps qu'on essaye de prendre en compte ces externalités négatives. Alors là, je parle dans les politiques, dans les politiques publiques, pas dans la théorie économique. Comme je vous l'expliquais, c'est fait à partir... Enfin, en tout cas, le mouvement est lancé au début du XXe siècle. Mais effectivement, vous avez un certain nombre de pays comme la Chine qui découvrent aujourd'hui la présence massive des phénomènes de pollution. Bon, et là, c'est l'un des grands défis pour ces pays émergents, d'essayer de les réduire, mais c'est évidemment pas facile, parce qu'on voit bien qu'ils sont pris entre deux objectifs contradictoires, à la fois poursuivre la croissance économique et, dans le même temps, réduire les effets négatifs sur l'environnement et sur la santé publique de ces externalités négatives. S'agissant de la Chine et de la pollution de l'air, c'est à peu près 600 000 personnes par an qui décèdent prématurément de pollution de l'air. Donc à la fois, vous voyez, avec un coût humain, et économique et social qui est extrêmement élevé. Donc vous voyez, pour répondre, on essaye de les prendre en compte, mais c'est pas aussi facile que ça, parce que après, c'est comment est-ce qu'on traduit ça en termes de politique.
Bonsoir Marie-Ange. En fait, moi, je voudrais savoir comment justement concilier développement durable de nos jours entre les comment concilier développement durable vis-à-vis des pays émergents, parce que justement, on va dire que les pays du Nord, pour pouvoir se développer et tout ça et s'industrialiser, ils ont dû polluer. Et comment trouver un juste milieu pour que les pays émergents, j'entends par là l'Inde, tout ça, pour qu'ils puissent se développer sans forcément polluer la planète. Merci.
Merci pour votre question. C'est-à-dire que on peut se préoccuper sur le plan de la santé de la planète, mais je veux dire, les Indiens sont très clairs, ils refusent tout engagement. Donc, c'est assez simple pour finir. C'est-à-dire que l'Inde, on le voit, sommet sur le climat après sommet sur le climat, refuse de réduire ses émissions de CO2, par exemple, si on prend ça. La Chine, c'est pareil. Et pourquoi est-ce que la position chinoise bouge un peu en ce moment ? C'est parce que la population chinoise est victime de pollution. C'est en fait uniquement ça. C'est pas du tout pour des raisons climatiques globales, puisque à la dernière conférence sur le climat, finalement, Chinois et Américains se sont mis d'accord pour parvenir à un texte qui entrera en application en 2020. Bon, donc ça veut dire, quand vous êtes un négociateur, que de toute façon, ça sera l'équipe d'après qui aura à gérer ça, qui expliquera qu'elle n'est pas engagée parce qu'il s'est fait avant. Bon, donc on voit bien, c'est-à-dire que à long terme, tout le monde est d'accord pour réduire les émissions de CO2. Seulement, les décisions de court terme montrent que, en réalité, on repousse les échéances autant qu'on peut. Et si vous voulez rester sur cet exemple-là, la même année, enfin, à partir du 1er janvier 2013, devait entrer en application une directive européenne qui s'appliquait au transport aérien pour donc les 4000 entreprises de transport aérien qui font des vols en Europe à destination ou en provenance de l'Europe. Et les Indiens ont dit qu'ils étaient opposés. Les Russes ont fait savoir que si l'Europe persistait, ils empêcheraient le survol de la Sibérie, si bien que les avions seraient obligés de faire le détour par le pôle Nord pour aller en Asie. Et les Chinois ont expliqué que de toute façon, ils annulaient leur commande d'Airbus et qu'ils se réservaient le droit de saisir les appareils des compagnies européennes sur les tarmacs des aéroports chinois. Donc, il ne faut pas trop se faire de soucis pour les pays émergents, puisque les pays émergents, de toute façon, ne veulent pas y aller. Donc, vous voyez, là aussi, il y a une sorte de faux débat. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu l'impression que les pays occidentaux, d'un certain point de vue, empêcheraient les pays émergents d'émerger. En réalité, pas le moins du monde. À partir du moment où les pays émergents refusent des engagements contraignants, finalement, ils continuent sur leur trajectoire. Et je veux dire, en plus, vous voyez, quand je dis ça, je ne dis pas qu'ils ont tort. Peut-être que si j'étais président de la République populaire de Chine, je ferais la même chose. Vous voyez, donc, il n'y a pas dans mon propos, il n'y a pas de jugement de valeur. Il y a juste un constat qui fait que... Et c'est ça d'ailleurs que posait tout à l'heure, enfin quand je disais la question de la croissance zéro pose problème, parce que effectivement, si vous décidez à un moment de faire de la croissance zéro, ça veut dire qu'en fait vous niez toutes les trajectoires historiques qui ont abouti au niveau de pollution à un moment donné. Et ça, c'est un élément que n'avaient pas vu les concepteurs de cette notion. Puisque, vous voyez, finalement, vous pouvez dire en France, OK, on va faire de la croissance zéro. Bon, c'est pas si terrible que ça. En revanche, quand vous êtes au Yémen, ça peut être gênant qu'on vous explique qu'à partir de maintenant, il n'y aura pas de croissance économique chez vous. Et derrière tout ça, vous voyez, vous avez tout le problème de l'année de référence dans les accords internationaux. Et sur les questions de pollution, c'est absolument, de changement climatique, c'est absolument net. L'accord de Kyoto, sur lequel on est encore, prend comme année de référence 1990. Mais en fait, ça s'applique qu'aux pays du Nord. Donc 1990, ça allait. Aujourd'hui, le débat entre la Chine, les États-Unis et les pays occidentaux consiste à choisir l'année de référence. Donc, voyez, les Occidentaux, même les Américains, seraient peut-être prêts à prendre 2010. La Chine, elle, serait prête à commencer de réduire ses émissions avec comme année de référence 2025 ou 2030. Donc les débats en fait sur le climat, voyez, portent sur tous ces facteurs-là. Parce qu'à partir du moment où vous prenez une année à partir duquel vous calculez les réductions, en fait vous supposez que les trajectoires historiques qui ont amené à ces niveaux de pollution étaient à peu près toutes les mêmes, alors que bien évidemment c'est pas le cas.
Merci. Bonsoir, je m'appelle Clara et en fait j'ai une question encore.
J'ai une question
que je me posais, donc peut-être que vous pourriez apporter une réponse, c'est celle-ci. Je me demandais s'il existait des systèmes de développement durable à l'échelle humaine, que ce soit au niveau de peuples ou de véritables nations qui soient reconnues ou pas dans les relations internationales. Et si oui, est-ce que ces systèmes de développement durable, est-ce qu'ils pouvaient avoir une influence significative, même à long terme, face à nos civilisations à nous, qui sont en réalité des civilisations structurées autour d'un développement entre guillemets précaire, et qui sont des civilisations qui ont vocation en réalité à se globaliser, donc à absorber toutes les autres civilisations, ou du moins tous les autres systèmes de développement durable, si tant est que ça existe.
Alors, la réponse à votre première question, c'est non. Ce qui résout un peu la deuxième en même temps, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'existe pas aujourd'hui un modèle, vous voyez, de développement durable qui serait généralisable. Vous voyez, parce qu'en fait, comme je pense l'avoir montré, il y a énormément de questions qui se posent. Bon, et pour aller un peu plus loin dans les problèmes que votre question suggère, c'est que au final, l'un des gros problèmes pour l'économie mondiale aujourd'hui, c'est finalement qu'elle est dominée par deux pays, la Chine et les États-Unis, qui se situent à des étapes différentes de leur processus de développement. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire que si vous prenez l'histoire économique depuis, disons, la révolution industrielle, depuis le 19e siècle, finalement, il s'est trouvé que les pays qui étaient les plus riches collectivement étaient aussi les pays les plus riches en termes de produit intérieur brut par tête. L'Angleterre, la France, les États-Unis, etc., etc. Donc, d'un certain point de vue, ça ne résolvait pas les questions, mais en tout cas, ça permettait de poser les questions sur une base unique pour ces pays-là. Aujourd'hui, quand on explique que la Chine est maître du monde, c'est absolument faux. Le PIB américain est encore 2,5 fois le produit intérieur brut chinois, et comme les Chinois sont 4 fois plus nombreux que les Américains, et que 4 fois 2,5, ça fait 10, ça veut dire qu'en termes de richesse par tête, les Chinois sont 10 fois plus pauvres que les Américains. Donc aujourd'hui, l'économie mondiale est dominée par un pays riche, les États-Unis, et un pays riche collectivement, mais pauvre individuellement, la Chine, avec des inégalités extrêmes au sein de l'économie chinoise. Donc ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que pourquoi il n'y a pas de modèle de développement durable unique ? Ben, parce que tout simplement, les objectifs des pays ne sont pas les mêmes. C'est que l'objectif des États-Unis qui se situe, ce qu'on appelle sur la frontière technologique, c'est-à-dire à l'un des niveaux les plus avancés technologiquement, peut espérer faire quoi ? 3% de croissance par an en moyenne ? Tandis que la Chine, en dessous de 7% de croissance, a détruit des emplois. Et que la dernière chose au monde que les autorités chinoises ont envie, c'est de la multiplication des mouvements sociaux, puisqu'il y en a déjà 180 000 par an. Et donc, les autorités chinoises, à la fois, voyez, doivent faire en sorte que la pollution ne fasse pas plus de ravages qu'elle n'en fait aujourd'hui, mais en même temps, elles ne peuvent pas descendre en dessous d'un taux de croissance de l'ordre de 7%. Donc vous voyez, aujourd'hui, la difficulté, c'est ça, c'est qu'il n'existe pas un modèle qui est unique. Tout simplement parce que les pays ne sont pas au même stade de leur histoire économique. Et vous avez raison de parler de globalisation dans les objectifs, puisque en réalité, effectivement, ce que veulent faire les autorités chinoises, c'est de rendre leur pays de plus en plus riche, hein, pour rattraper, voire dépasser les États-Unis.
Bonsoir. Ma question est un petit peu caricaturale et naïve, peut-être, mais est-ce que un pays qui n'axerait pas son économie justement sur le développement durable, ne risque pas de se faire, entre guillemets, manger par les autres, à savoir son économie devient moins puissante que celle des autres, son armée, et ainsi de suite. Est-ce qu'au final, dans le monde actuel, une économie axée sur le développement durable, à court terme, n'est pas vouée à l'échec, et puis le pays n'est pas voué à disparaître, au moins de la scène internationale ?
Ah ben ça c'est exactement le problème qu'on observe. Alors disparaître, etc. Bon, ça je sais pas. Mais le risque aujourd'hui, par exemple dans la question de la lutte contre le changement climatique, c'est que les Européens deviennent un peu les idiots du village global. Bon, je m'explique. C'est que lorsque on ratifie le protocole de Kyoto. Les pays qui ratifient le protocole de Kyoto, donc il n'y a pas les États-Unis, etc., qui refusent de le ratifier, ce sont les pays européens. Bon. Ces pays représentent, à l'époque, à peu près, hors États-Unis, 35% des émissions de CO2 dans le monde. Bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si ces pays font un effort, donc réduire de 5% pour 2012 leurs émissions de CO2, ça va avoir un impact positif sur le climat, ou en tout cas, ça va ralentir la dégradation de la situation. Bon. Simplement, les calculs sont faits à partir de 1990. Or, aujourd'hui, on se trouve en 2010, c'est-à-dire finalement, plus, mettons, 20 ans après. Pendant ces 20 ans, la Chine a fait à peu près 9% de croissance par an. D'accord ? Les émissions de CO2 pendant ces 20 ans globalement ont augmenté. Aujourd'hui, on est à peu près à 30 milliards de tonnes de CO2 rejetées. Les pays qui ont ratifié le protocole de Kyoto ne représentent plus que 10%. Pourquoi ? Parce que, d'une part, leurs émissions ont été réduites. Et puis d'autre part, un certain nombre de pays qui avaient ratifié la première phase du protocole de Kyoto, c'est-à-dire jusqu'à l'an dernier, ont refusé d'entrer dans la deuxième phase. Et parmi ces pays, vous avez par exemple le Canada, la Russie, etc. etc. Si bien qu'en fait, aujourd'hui, les pays qui sont dans le cadre du protocole de Kyoto, c'est un dixième des 30 milliards de tonnes. La Chine, c'est 9 milliards. Les États-Unis, c'est 5,7 milliards. Donc on voit bien la difficulté, c'est-à-dire que si la Chine et les États-Unis s'y mettent pas, l'Europe peut effectivement arrêter de produire, de toute façon, ça ne changera pas le problème dans ces grandes lignes. Et donc vous avez tout à fait raison de poser cette difficulté, c'est-à-dire que effectivement, il faudrait que tout le monde soit vertueux, sauf que si vous êtes le seul vertueux, à l'arrivée, qu'est-ce que vous faites ? Vous pénalisez votre économie et en même temps, ça ne change pas la situation globale. D'où effectivement l'enjeu crucial que les États-Unis et la Chine prennent des mesures efficaces en termes de réduction des émissions, de leurs propres émissions de CO2.
Bonsoir. J'aimerais vous demander, est-ce que vous faites un lien entre développement durable et croissance verte ? Et s'il y en a un, est-ce que la croissance verte est à la hauteur de ce qu'attend le développement durable ?
Alors, est-ce que je fais un lien ? Oui, je fais un lien. Enfin, je ne sais pas exactement ce que vous appelez croissance verte. Oui, s'il vous plaît, on peut redonner le micro.
C'est-à-dire une croissance basée plus sensible aux questions environnementales, donc relative à la pollution, à la dégradation de l'environnement, etc.
Alors, est-ce qu'il y a un lien ? Oui, parce qu'on voit bien que beaucoup de pays essayent de mettre en œuvre ça, en particulier en développant ce qu'on appelle les technologies vertes. Et par exemple, c'est le cas en Chine, hein, avec le solaire, l'éolien, etc., etc. Et ils le font d'autant plus volontiers qu'ils estiment qu'il y a des parts de marché à la clé avec les panneaux solaires, etc. Donc, évidemment, il y a un lien, c'est-à-dire que toutes ces décisions vont plutôt dans le bon sens, dans la mesure où il vaut mieux essayer de produire de l'électricité avec des énergies renouvelables plutôt qu'avec du charbon ou du pétrole. Donc, bien sûr qu'on peut faire un lien. Maintenant, est-ce que c'est à la hauteur des enjeux ? Non. Oui, c'est-à-dire que c'est nécessaire, mais c'est loin d'être suffisant. C'est-à-dire que beaucoup de pays aussi développent les technologies vertes avec en tête les perspectives commerciales qu'il y a derrière. Je veux dire, la Chine a une capacité de production de panneaux solaires qui est très largement supérieure à la quantité de panneaux solaires qu'elle installe sur son territoire. Je crois que c'est à peu près 45 mégawatts qu'elle peut, en termes d'équivalent de panneaux solaires, et en Chine, il n'y a que 2 mégawatts d'installés. Donc tout le reste, en fait, c'est pour l'exportation, ce qui, évidemment, explique la décision européenne de ce matin de taxer les panneaux solaires. Donc, vous voyez, je ne peux pas répondre de manière tranchée à votre question. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut développer ce type de technologie, même si ce n'est pas non plus aussi neutre sur le plan de l'environnement qu'on veut bien le dire, parce que pour construire des panneaux solaires, il faut des terres rares, pour avoir des terres rares, il faut des mines, etc. Donc ça a aussi un impact sur l'environnement. Simplement, ce n'est pas le même que les rejets de CO2, ou ce n'est pas le même que les accidents nucléaires éventuels, mais en même temps, on ne peut pas dire que sur l'environnement, ça serait complètement neutre. Parce que de toute façon, dans 10 ans, les panneaux solaires, il faudra bien en faire quelque chose. Ceux qui seront arrivés en bout de vie et on n'a pas la moindre idée de comment on pourra récupérer les substances toxiques qui sont dedans. Maintenant, on peut dire, voilà, d'ici 10 ans ou 15 ans, on aura bien trouvé quelque chose. Donc à la fois, effectivement, vous avez raison de dire qu'il y a une relation. Maintenant, on est évidemment loin du compte. Je reviens sur les chiffres de tout à l'heure. Un certain nombre d'études ont montré que si on ne veut pas que la température terrestre augmente de plus de 2 degrés au cours de ce siècle, il ne faudrait pas rejeter en moyenne par an plus de 14 milliards de tonnes de CO2. Et on est à plus de 30. Donc ça montre évidemment tous les enjeux. C'est pour ça que quand on parle de facteur 4, c'est-à-dire divisé par 4, c'est-à-dire qu'effectivement, vous voyez, on peut pas, si on revient à 14, en même temps, comme on a déjà émis 30 pendant 12 ans, on est bien au-dessus de la moyenne. Donc ça veut dire qu'à l'horizon 2030-2040, il faut diviser par 4. Et il n'est pas du tout assuré qu'on aura des technologies qui permettront de faire ça, parce que dans le même temps, la Chine va continuer sa croissance économique, et comme le disait mademoiselle, l'Inde suit. Le Brésil, etc. Donc, oui, c'est ça qui rend les choses extrêmement, extrêmement compliquées, quoi.
Oui, ma question, c'est un peu là-dessus, en fait. Est-ce que la seule solution n'est pas le développement technologique ? Et en fait, on revient dans une croissance traditionnelle. Le développement durable est un peu évacué comme moyen de production, comme moyen pour apporter une croissance protectrice de l'environnement, et devient seulement un objectif qui est assuré par les moyens habituels du développement économique et du développement technique.
Ah ben oui, enfin je ne sais pas si c'est la seule chose, mais en tout cas quelque chose est certain, c'est que le développement durable n'est pas opposé, enfin l'objectif de développement durable n'est pas opposé au progrès technologique. Oui, je veux dire, justement, il y a souvent un procès qui est fait par les gens qui sont contre le principe de précaution, en disant, mais finalement, si on met en œuvre le principe de précaution, ça ralentit l'augmentation des connaissances scientifiques. Bon, et ça, c'est un point de vue qui a été défendu par un certain nombre de personnalités plus ou moins médiatiques. La seule difficulté avec cet argument, c'est qu'il est faux. Et si je vous dis qu'il est faux, ce n'est pas mon opinion personnelle, qu'il n'y a pas d'intérêt particulier, c'est que lorsque vous prenez par exemple deux événements qui ont eu lieu au cours des dernières années, qui a été l'épidémie d'encéphalopathie chez les bovins, la fameuse affaire de la vache folle, bon, et le changement climatique. Bon. Dans les deux cas, on a dit finalement il faudrait que le principe de précaution s'applique. Est-ce que le principe de précaution a abouti à réduire notre niveau de connaissance? Non, puisque s'agissant de la vache folle, on a démontré que le prion n'était pas transmissible à l'homme. Donc on a plutôt fait progresser les connaissances et on a dit, ben finalement, voilà, il n'y a pas de problème. Et s'agissant du réchauffement climatique, on a poussé les recherches sur le domaine et on est arrivé à des conclusions qui sont plus robustes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans. Si bien que, en fait, le développement durable, le principe de précaution, ne sont pas du tout des notions qui empêchent le développement des connaissances et le progrès des techniques, bien au contraire. Enfin, je veux dire, si vous prenez les contraintes environnementales dans le domaine, par exemple, du bruit, bon, dans l'aéronautique, ça a donné lieu depuis 20 ans à des recherches et à des développements qui sont considérables. Les problèmes de réduction de consommation de carburant ont aussi amené les constructeurs d'avions et les constructeurs de moteurs à réduire considérablement la consommation. Donc, je ne suis pas tout à fait sûr que le progrès technique, ça va être la réponse à tous les problèmes, mais en même temps, on ne peut pas exclure que c'est un élément important dans l'équation. Oui, c'est la fameuse notion schumpeterienne du nom de Joseph Schumpeter, l'économiste, de destruction créatrice. C'est-à-dire que finalement, il y a d'anciennes structures qui vont disparaître, d'anciens modes de production, et on peut espérer de nouveaux modes de production qui vont apparaître, moins gourmands en matériaux, moins gourmands en énergie, plus recyclables, etc. Voilà. Alors, est-ce que en même temps, ce progrès-là sera suffisamment rapide pour pallier la dégradation de l'environnement? Ça, moi, je peux pas vous répondre.
On a encore deux questions avant de conclure.
Oui, d'abord, je m'excuse. Je ne sais pas si les réflexions que je vais faire... je m'excuse à l'avance, puisque je n'étais pas là pour la majeure partie de votre conférence. D'abord, développement durable, dans mon esprit... ça n'est pas uniquement lié au réchauffement climatique. C'est même très peu lié au réchauffement climatique. Quand j'entends développement durable, je le prends au sens propre du terme, c'est-à-dire on est sur une planète finie, les ressources sont finies, quelles qu'elles soient, et donc il faut les ménager. Voilà. C'est dans ce sens-là que j'entends le développement durable. Les énergies vertes, enfin pas les énergies, mais le développement, oui, enfin bref, l'économie verte va dans le bon sens. Par contre, là où je suis beaucoup plus réticent, et je vais vous dire pourquoi, et je pense que les pays en voie de développement sont peut-être sur cette ligne, dans le sens où ils n'osent pas dire, parce que c'est très politiquement incorrect, ils n'osent pas dire qu'ils ne croient pas profondément au catastrophisme, au cataclysme vraiment qu'on nous prédit. On nous prédit le cataclysme, puisque manifestement nous ne faisons rien, nous sommes à 30 milliards, comme vous avez dit, alors qu'on devrait être à 15. Donc on va droit dans le mur, on va droit au précipice, bref, c'est la catastrophe annoncée, mais vraiment catastrophe annoncée. Or, il n'y a que les Occidentaux qui y croient, je pense. D'ailleurs, depuis 15 ans, ce qui conforterait les pays en voie de développement, depuis 15 ans, il ne se passe rien, c'est la stabilité. Le changement climatique, il a eu lieu effectivement depuis 150 ans, il est très modéré, et depuis 15 ans, il n'y a plus rien. Les pays en voie de développement ne sont pas idiots. Ils se disent, après tout, on va peut-être attendre que ça se précise. Un sceptique.
Merci. Alors, oui, disons, pour rebondir sur votre remarque, bon, moi, je très franchement, je veux dire, moi, je peux pas vous dire qui croit à quoi. Oui, bon, donc ça c'est le point de départ. Dire qu'en matière de changement climatique, depuis 15 ans, il n'y a rien, ça mériterait d'être étayé, parce que bon, on s'aperçoit quand même qu'on a multiplication de phénomènes climatiques extrêmes, il y a quand même pas mal de tornades, etc., etc. Alors, on peut toujours dire c'est pas lié au changement climatique. C'est possible, vous voyez, tout comme il y a bien des gens en Pologne qui ont développé des cancers après Tchernobyl et c'était pas lié à Tchernobyl. Maintenant, est-ce qu'on en déduirait pour autant que la radioactivité c'est pas dangereux? Je sais pas. Vous voyez, donc je pense que là-dessus faut être extrêmement prudent, dans la mesure où D'abord, moi, si j'ai utilisé l'exemple sur le changement climatique, ce n'est pas du tout pour penser que le développement durable, c'est que la question du changement climatique. Vous voyez, donc là, je ne suis pas du tout dans cette position-là. Simplement, effectivement, la question du changement climatique est une question globale, donc, qui entraîne un certain nombre de conséquences. Bon. Mais je pense qu'en tout cas, les pays du Sud... Alors après, là aussi, les intérêts de tous les pays du Sud ne sont pas les mêmes. Hein, entre les intérêts chinois et les intérêts de tel ou tel petit pays d'Afrique ou des fameuses îles de Tuvalu qui vont se retrouver sous l'eau, ce n'est pas non plus tout à fait les mêmes intérêts. Bon. Moi, ce que je crois, alors je ne sais pas si je vous rejoins ou pas, mais ce que je pense, c'est qu'effectivement, ce n'est pas le changement climatique, ce n'est pas la perspective du changement climatique qui fait évoluer la position des pays émergents, mais mettons de la Chine, par exemple, c'est tout simplement la dégradation de la qualité de l'environnement. Et la dégradation de la qualité de l'environnement en Chine est aujourd'hui telle que les autorités sont bien obligées de prendre des mesures. Puisque, comme je vous disais tout à l'heure, il y a à peu près 190 000 mouvements sociaux violents en Chine par an, et que la moitié sont liés à des problèmes d'environnement. Ce qui est quand même énorme. Bon, les fameux 500 villages du cancer, où vous avez des taux de cancer qui sont 20, 30, 40 fois supérieurs à la moyenne nationale. Les pollutions avec le carbone noir, par exemple, à Pékin, avec les centrales à charbon, etc., fait que la Chine, à mon avis, va finir par lutter contre le changement climatique, mais pas pour lutter contre le changement climatique, pour lutter contre la pollution de l'air. Et donc, en réduisant les émissions de carbone noir en Chine, bah, de fait, ça sera toujours autant de moins de carbone qui sera rejeté dans l'atmosphère. Donc, vous voyez, je pense que les phénomènes sont vraiment difficiles à séparer, mais qu'effectivement, pour les pays en transition, c'est plus les dégradations de l'environnement au niveau national qui vont amener ces pays-là à réorienter en partie leur trajectoire plutôt que, effectivement, des considérations planétaires.
Bonsoir. C'est bon ? Oui. Je trie mes déchets, je ne mets pas le chauffage, même quand il fait froid, je prends le vélo, j'évite l'avion, et là je me sens toute bête, hein, parce que je me dis, je fais partie des idiots européens.
Oui, mais on est nombreux en même temps, donc on se tient chaud, quoi.
J'ai une dernière question là-bas d'une jeune fille.
Bonsoir. Alors ma question, c'est que vous avez dit que non, en fait, les pays émergents, et pour rattraper les économies développées, est-ce qu'il faut forcément qu'ils polluent sur le modèle de l'obsession productiviste des Trente Glorieuses? Et donc, est-ce que la seule solution, en fait, ce serait pas celle qui est proposée par le Club de Rome? Surtout que la croissance, elle fait référence au commerce international. Et donc, qui dit commerce international dit aussi transport et donc émissions de pollution.
Oui, alors je pense que ça ferait écho à la question qui vient d'être posée. La dernière chose dont veulent entendre parler les autorités chinoises ou indiennes, c'est du Club de Rome. Oui, ça, je veux dire, vous leur parlez croissance zéro, clairement, ça plombe l'ambiance. Pourquoi ? Parce que l'objectif, en fait, des dirigeants chinois, mais indiens, enfin, moi, je prends l'exemple chinois parce que je travaille essentiellement sur la Chine, c'est tout, mais c'est, vous pourriez, un de mes collègues qui travaille sur l'Inde pourrait vous dire la même chose, ou l'Indonésie, ou la Malaisie, enfin, sauf que c'est évidemment pas tout à fait la même taille. L'idée de ces pays, c'est quoi ? C'est de donner à leur population un niveau de vie et des conditions de vie qui sont, grosso modo, les mêmes que ceux des pays occidentaux. Bon. L'exemple tout trouvé, c'est la Corée du Sud. Hein, je veux dire, la Corée du Sud, après 1953, la fin de la guerre de Corée, est un pays qui était extrêmement pauvre. Hein. Les experts de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international l'ont expliqué à l'époque que ce qu'il fallait, c'était que la Corée du Nord se spécialise dans l'industrie et la Corée du Sud dans l'agriculture. Les Sud-Coréens, bizarrement, n'ont pas adhéré à cette spécialisation internationale et ils ont eu drôlement raison puisque aujourd'hui, finalement, la Corée, c'est un pays qui a un niveau de vie qui est tout à fait comparable, pas tout à fait égal aux pays du Nord, mais enfin qui s'en rapproche. Et évidemment, les autorités chinoises veulent faire la même chose. C'est-à-dire que la Corée du Sud, pour eux, c'est un vrai modèle, presque plus que le Japon, parce que le Japon, c'est en 1860 qu'ils s'y mettent. Et donc, vous voyez, ça met un peu plus de temps. La Corée du Sud, ça s'est finalement fait très, très vite. Bon. Le Parti communiste chinois, en réalité, alors là non plus, je ne suis pas dans la tête des gens, mais enfin, peu de gens en Chine aujourd'hui on s'imagine qu'on prépare le socialisme. Et donc, la seule légitimité aujourd'hui du Parti communiste, c'est de permettre à la population de vivre mieux. Bon, simplement, ils se sont aperçus après 30 ans après le virage vers l'économie de marché qu'en fait, les inégalités n'arrêtaient pas de s'accroître et que donc, il fallait un peu inverser la tendance, d'où la politique dite de société d'harmonie qui a été adoptée par le Parti communiste en 2006, avec des résultats qui sont un peu mitigés, puisque la Chine est aujourd'hui l'un des pays les plus inégalitaires au monde, à peu près au même niveau que le Brésil. Et si on intègre les revenus cachés, on est encore plus inégalitaire qu'au Brésil. Donc c'est dire que il y a du travail à faire pour réduire les inégalités. Mais l'idée d'une croissance zéro, je veux dire, c'est une idée qui est mais complètement hors de propos pour eux. Et quand on entend, voyez, parfois le raisonnement qui consiste à dire « Mais au nom de quoi les pays du Nord interdiraient-ils aux pays du Sud de se développer ?» Mais attendez, les pays du Sud ne demandent pas l'autorisation aux pays du Nord pour se développer. Oui, c'est-à-dire que c'est un raisonnement qui consiste fantasmatiquement à se dire que si à Bruxelles, à Washington, etc., on disait aux Chinois « Arrêtez de vous développer », ils arrêteraient de se développer, et que ça, on ne peut quand même pas le faire. Mais attendez, ils n'attendent pas notre autorisation. Les pays en transition font ce qu'ils veulent. Et la Chine explique, enfin les autorités chinoises expliquent qu'ils étaient la première économie mondiale au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, que le XIXe siècle, avec les guerres de l'opium, quelques petits problèmes avec la couronne britannique, ont conduit à une dégradation de la position du pays sur la scène internationale, et que l'objectif du XXIe siècle, c'est que la Chine redevienne la première puissance économique du monde. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'il s'appelait l'Empire du Milieu. Parce qu'il se mettait aussi au milieu des cartes, comme tout pays. Tout pays, sur une planisphère, se met toujours au milieu. Bon. Et donc, l'objectif de la Chine, c'est ça. Et donc, on peut l'approuver, on peut le déplorer, mais la réalité, elle est là. C'est-à-dire qu'ils veulent vivre dans les mêmes conditions que les Occidentaux. Alors, en revanche, ce qu'ils pourraient faire, et là, ça rejoindrait votre remarque, c'est pas forcément faire les mêmes erreurs. C'est-à-dire, vous voyez, avoir une politique qui soit plus audacieuse en termes de transport en commun, vous voyez, des choses comme ça. Or, malheureusement, je veux dire, la Chine n'a pas trop vu les problèmes environnementaux arriver. Et ce qui est très intéressant à observer, c'est que depuis 5-6 ans, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les problèmes environnementaux qui étaient déjà présents, en fait, sont considérablement aggravés au cours des dernières années, ce qui fait qu'ils sont en train d'essayer de changer un peu de cap. Mais vous voyez, dans un pays qui compte 1,3 milliard d'habitants, c'est pas toujours aussi simple que ça. Donc vous voyez, à la fois, on peut être critique, puis en même temps, se dire que c'est pas évident quand on est à la tête d'un pays comme la Chine ou comme l'Inde, de pouvoir réorienter rapidement un certain nombre de pratiques. Mais vous voyez, leur volonté de faire de la croissance économique, c'est la leur. C'est pas personne leur a imposé. D'ailleurs, la Chine n'a pas tellement fait de croissance économique entre 1949 et 1978. Et avec la succession de Mao et l'arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping en 1978, il y a eu un virage. Donc ça, vous voyez, ce sont des choix qui sont des choix autonomes au pays. et qui dépendent absolument pas des pays occidentaux. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, bah oui, même si en Europe, vous voyez, on arrête de produire du CO2, globalement, à l'échelle de la planète, ça ne change pas énormément de choses. D'où l'objectif d'essayer de rallier un certain nombre de pays à cette cause-là, ce qui n'est pas facile, comme le disait monsieur dans le fond de la salle tout à l'heure.
Cette fois-ci, c'est la dernière question, avant un petit mot de conclusion.
Alors, bonsoir. Voilà, c'est peut-être un peu utopique, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas créer une... C'est peut-être déjà le cas, mais créer une ONG ou une institution au niveau mondial et qui forcerait chaque pays, alors bien sûr avec des exigences différentes, puisque comme nous l'avons vu, les pays n'ont pas le même développement, qui imposerait avec des sanctions de se soucier du développement durable et de, voilà, d'instaurer des quotas pour favoriser une croissance en meilleur lien avec le développement durable.
Oui. Bah, je suis d'accord avec vous que l'idée est bonne, mais comment vous forcez la Chine à respecter des quotas? Oui, c'est que si un pays ne veut pas, en fait, il n'y a pas 36 solutions. Bon, la solution quand un pays ne veut pas se rendre, veut pas adapter son comportement à une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est la guerre. Bon. Donc, je veux dire, on connaît le truc. Donc, je veux dire, Saddam Hussein ne veut pas quitter le Koweït, on dit, OK, on va vous le faire quitter, on va déplacer 500 000 soldats américains pour vous faire quitter le Koweït. Bon, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'il y ait énormément de pays qui soient prêts à déclencher des guerres pour des questions d'environnement. En revanche, si on laisse ça de côté, donc vous voyez, c'est toute la difficulté, parce que après tout, je veux dire, ce qui structure l'ordre international, c'est le fait que les pays sont souverains. Et que précisément cette idée de souveraineté nationale est quand même une idée qui est très forte. Et d'ailleurs à juste titre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la souveraineté. En même temps, c'est aussi quand même ce qui est à la base de la politique. Hein, si un pays n'est pas souverain, vous ne pouvez pas être contre la souveraineté quand ça vous arrange et puis en même temps dénoncer l'impérialisme américain, puisque la définition de l'impérialisme, c'est de réduire des dimensions de la souveraineté d'autres pays. Bon. Alors maintenant, est-ce qu'il existe un lieu où on peut agir sur les États sans aboutir au conflit et où la défection d'un État impliquerait pour lui des conséquences qui seraient plus fâcheuses que le fait de se soumettre? Il y a un seul domaine dans lequel ça c'est vrai, c'est le commerce international. Pourquoi ? Parce que finalement, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, les pays ont globalement intérêt à être dans l'OMC. Et on voit bien que lorsque vous avez des différends commerciaux entre les pays, même quand les États-Unis sont condamnés, les États-Unis se soumettent. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ne vont pas sortir de l'OMC. Parce que la Chine, aujourd'hui, est dans l'OMC, qu'elle n'a pas envie d'en sortir. Donc, l'une des pistes de réflexion, vous voyez, ça serait de lier les questions d'environnement au niveau international aux questions commerciales. Et vous voyez, de pouvoir introduire dans les rapports commerciaux des dimensions à la fois sociales et des dimensions environnementales. Pourquoi ? Parce que le cadre qui existe, en fait, bénéficie à tous. Personne aujourd'hui a intérêt à sortir de l'OMC. C'est pour ça que quand vous aviez, il y a quelques années, des gens qui disent « mais l'OMC, faut le supprimer », mais c'est complètement idiot. Parce que si vous supprimez l'OMC, qu'est-ce qui prévaut entre les États ? C'est les rapports bilatéraux. Et donc, évidemment, un petit État n'est pas en position de force pour négocier avec un grand État. Alors, même si des rapports de force existent au sein de l'OMC, l'OMC, vous voyez, même si les règles ne sont pas parfaites, ça permet un peu de lisser les excès dans ce domaine-là. Donc, vous voyez, moi, mon idée, alors pour le coup un peu personnelle, ça serait d'inclure dans cette espèce d'espace de droit international qu'est l'Organisation mondiale du commerce des éléments qui sont liés à l'environnement et au social. Et d'ailleurs, ça a déjà été fait, puisqu'il y a eu un certain nombre de procès devant ce qu'on appelle l'organe de règlement des différends, qui est une espèce de tribunal de l'OMC, où un certain nombre d'États ont fait valoir des arguments de type environnementaux, parce que tel pays, en réalité, pêchait avec des filets, avec des mailles trop petites, des espèces protégées, etc. Bon, notamment, il y a eu des histoires de crevettes thaïlandaises, il y a eu des dauphins qui étaient pris dans des filets qui étaient censés pêcher des thons, etc. Et vous voyez, là, on a pu faire un peu avancer les choses. Et je pense, vous voyez, qu'il vaut mieux partir de l'existant, de la pollution de l'air en Chine pour amener les Chinois à réduire leurs émissions de CO2, de partir de l'Organisation mondiale du commerce pour introduire des clauses sociales et environnementales, voyez, plutôt que de partir de l'environnement, dans la mesure où ça n'a strictement aucune chance d'aboutir. Donc, vous voyez, après, on se fait moins plaisir en disant ce que je dis, mais on est plus susceptible, vous voyez, dans la durée, de faire avancer les dossiers.
Merci, merci Jean-Paul Maréchal. Il est l'heure de conclure notre soirée. Il est aussi l'heure de conclure notre cycle. Donc, je voudrais remercier ici chaleureusement le professeur René Passé, qui nous a beaucoup aidé à concevoir ce cycle et qui a conçu les thématiques, choisi les intervenants avec nous. Et je voudrais lui demander de nous dire un petit mot de conclusion pour notre soirée et puis peut-être se donner rendez-vous plus tard. Donc, le professeur Passé.
Merci. Bien, je n'ai pas du tout l'intention de conclure sur l'ensemble du cycle et de vous retenir très longtemps. Enfin, je n'ai pas pu arriver plus tôt ce soir parce que j'étais pris dans un autre colloque à la Cité des Sciences où je devais intervenir, mais j'ai tenu symboliquement à venir clore cette série que j'avais inaugurée, que j'avais mise en route, que j'ai suivie régulièrement. Et je me serais senti un peu coupable si je vous avais laissé vous disperser sans venir vous dire quelques mots de remerciement. Alors, des mots de remerciement d'abord, bien sûr, pour l'équipe de Pompidou qui a d'abord eu l'idée de lancer cette initiative, dont on ne savait pas très bien si elle intéresserait, si ça fonctionnerait bien ou pas. Bon, votre réponse est là, vous avez suivi assidûment ce cycle, et je pense qu'il y a quand même un nombre assez intéressant de personnes que cela a pu effectivement intéresser. Je les remercie de toute l'aide qu'ils m'ont apportée aussi dans la mise au point et dans la réalisation de ce programme. Je remercie les conférenciers, c'est évident. Je n'ai pas pu assister à la conférence Jean-Paul Maréchal, mais j'étais bien tranquille, nous sommes de vieux amis, et je savais que je pouvais dormir sur mes deux oreilles. Mais enfin, sans la science, le dévouement, la clarté et la gentillesse de ces intervenants qui ont tous beaucoup de choses à faire et qui n'ont pas hésité un seul instant à venir auprès de vous, eh bien, ça n'aurait pas pu non plus se dérouler. Et enfin, merci à vous qui avez justifié cette initiative par votre présence, et j'espère que celle-ci pourra être reprise, se renouveler l'année prochaine ou dans les années à venir. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.